Bonjour, je suis Lise Bissonnette, la présidente directrice générale de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. J'ai tenu aujourd'hui à venir vous accueillir à cette activité toute particulière, ce midi littéraire avec notre ami l'écrivain Alain Mabankou et Aline Apostolska qui va animer cette rencontre. Je voulais le faire personnellement pour un certain nombre de raisons. Vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, 29 avril, vous êtes presque à l'heure dite, à 2 ans de l'inauguration de cette grande bibliothèque. C'était un 29 avril. Ça s'était passé à 11 heures le matin et la bibliothèque était pleine et à cette heure-ci, nous étions encore dans les célébrations. Donc, chaque année, nous ne voulons pas chaque année souligner l'anniversaire, mais tout de même, vous comprendrez que nous sommes heureux de le souligner un tout petit peu aujourd'hui, puisque au bout d'un an, tout le monde nous disait, ah, vous savez, c'est un succès de curiosité. Ben, au bout de 2 ans, quand il rentre certains jours ici, plus de personnes qu'il n'y en avait les jours d'ouverture, ça signifie que vous l'avez adopté. Mais ce n'est pas tellement de ça dont je voulais vous parler. Je voulais simplement souligner cet anniversaire et vous dire que c'est un bonheur en ce jour particulier d'accueillir donc cet événement littéraire. Alain Mabankou, qui j'ai presque un ami personnel puisque je le rencontre un peu partout dans le monde depuis quelques années et que j'ai connu à l'occasion du prix des 5 continents de la francophonie qu'il avait remporté avec son roman Vert cassé, qui est tout simplement une merveille pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas lu. Le hasard a voulu que je sois membre du jury et tout aussi enthousiaste que tous mes collègues de ce jury international. Et bien sûr, vous savez que par la suite, il a remporté le prix Renaudot, mais Aline Apostolska vous en dira plus long tout à l'heure. Donc, j'étais tout à fait heureuse qu'Alain Mabankou soit ici aujourd'hui et je veux souligner aussi le travail de Mme Apostolska qui est avec nous depuis quelques mois maintenant à ces rencontres littéraires qui ont habituellement lieu en semaine et qui, exceptionnellement, ont lieu en ce dimanche en collaboration avec Métropolis Bleu. Donc, je tenais à les accueillir tous les deux et je suis sûre que vous allez passer une excellente journée. Intéressez-vous à ces midis littéraires, ils sont toujours assez particuliers. Merci.
Bonjour, merci d'être là aujourd'hui. Alors, je vais faire une confidence, c'est aussi mon anniversaire dans 3 jours. Alors, c'est donc un grand cadeau pour nous tous, pour la bibliothèque et accessoirement pour moi qu'Alain Mabankou soit parmi nous. Comme d'habitude, j'ai préparé plusieurs dizaines de feuilles, mais je vous parlerai d'emblée personnellement de ce que moi je pense d'Alain Mabankou. Pour moi, sa vie ressemble à une quarantaine d'années de voyage, sous le signe du voyage, du Congo-Brazzaville et de Pointe-Noire où il est né, à la France où il a émigré pour faire d'abord ses études et ensuite y travailler, vers les États-Unis où il a d'abord enseigné à Ann Arbor et maintenant à l'Université de Los Angeles. Et bien sûr aussi le grand voyage, peut-être le plus grand sur la Terre, qui est celui de la littérature à travers 6 romans fort remarqués. Les 2 derniers ont été très remarqués, mais il avait commencé son chemin déjà bien avant, vers Cassé, qui a eu plusieurs grands prix, dont celui de la francophonie, mais également celui de RFO et du festival Étonnant Voyageur. Et puis, bien sûr, Mémoire de Porc-Épic, qui a eu le prestigieux prix Renaudot. Il avait néanmoins commencé par la poésie, qui est tout un voyage en soi et dont il nous parlera et qu'on va bientôt retrouver en réédition aux éditions du Seuil. Et puis, le dernier, sans doute pas le dernier, mais en tout cas un autre voyage, c'est celui de la langue, parce que il est un grand écrivain de la francophonie, donc il nous traduit en français des légendes et un univers et un continent qui est celui de l'Afrique et qui nous donne à disposition aussi. Alors je vous remercie pour toutes ces raisons d'accueillir comme il le mérite Alain Mabankou. Bonjour.
J'avais emballé mon micro pour que...
Pour qu'il ne se salisse pas.
Voilà.
Bonjour et bienvenue à Montréal. D'abord, Montréal, c'est une ville où vous aimez venir et revenir. On a vraiment cette chance. Je vous le disais tout à l'heure en coulisses, depuis que j'ai commencé ces entrevues, notre public fidèle le sait, c'est une entrevue qui commence un peu comme une question qu'on pourrait poser dans un poste de police, mais c'est simplement parce que c'est une entrevue où la vie personnelle est réelle, en tout cas la réalité de la vie sur son rythme chronologique, suit le développement littéraire. Alors la première question, c'est nom, prénom, date, lieu et pas l'heure de naissance.
Déjà, merci de m'inviter dans cette prestigieuse bibliothèque. Et quand je viens à Montréal, c'est toujours avec plaisir. Je retrouve les amis, Lise Bissonnette, Daniela Ferrière, Rodney Saint-Éloi. Donc, je suis en quelque sorte un peu chez moi désormais ici. C'est la quatrième patrie, puisque j'ai le Congo, oui, la France, les États-Unis et maintenant Montréal qui est devenu
Montréal
aussi...
Montréal qui est le mélange de tout ça.
Voilà, le mélange de tout ça parce que je retrouve à la fois toutes les langues ici. Donc, le nom, je crois qu'il est écrit au tableau. Donc, voilà. Voilà. Alain, pardon, parce que c'est le nom, le prénom chrétien. Mabankou, c'est le nom de famille. Ce qui veut dire, dans ma langue bembé, celui qui est né avec une fièvre.
Ah oui.
Voilà. Parce qu'on ne donne pas, en Afrique, on ne donne pas le nom comme on donnerait un nom à Milou, les chaînes de Tintin. On cherche toujours à donner le nom par un événement. Donc moi, j'étais arrivé avec une fièvre très intense. On a dit, écoutez, on va lui donner Mabaou, la vraie prononciation à langue. Et puis pour ne pas embêter les gens quand ils m'appelleraient, on a dit Mabankou. Et puis plus tard, mon oncle a modifié, puisqu'il n'y avait qu'un K, ajouté un CK. Et les gens pensaient que c'est moi qui faisais la coquetterie. Je dis non, c'est mon oncle, le grand frère de ma mère, qui l'a fait avec CK pour essayer un peu d'embrouiller les gens. Donc je suis né au Congo-Brazzaville, et j'ai grandi là-bas et j'ai quitté la France... le Congo, à l'âge de 21 ans, pour aller faire des études.
Mais on n'en est pas encore là.
On n'en est pas là, voilà.
Non. Alors, je sais que vous êtes fils unique, mais qui étaient vos parents?
Mon père travaillait dans un hôtel qui est à Pointe-Noire, qui s'appelle le Victory Palace. C'était tenu par des Français expatriés. Et ma mère vendait les arachides au grand marché de Pointe-Noire. Quand je dis vendre des arachides, c'est-à-dire qu'elle achetait un sac d'arachides et puis elle la mettait par petites parties dans des cuvettes qu'elle allait exposer au marché. Elle s'asseyait toute la journée pour attendre que les gens viennent acheter. Donc parfois, elle pouvait revenir avec des médiocres revenus, mais c'était vraiment pas forcément la grande vie, mais elle s'est débrouillée comme ça, quoi.
Oui, je disais, j'ai lu que vous étiez fils unique, mais vous étiez sans doute entouré. Est-ce que vous étiez un enfant sociable ou plutôt un petit garçon retiré, rêveur? Qui était le très jeune Alain?
Alors, social, oui, puisque je pouvais me fondre facilement dans le milieu, mais je n'étais pas doué au football, donc je ne pouvais pas participer avec les autres. Au football, souvent, quand on me disait d'aller jouer, je disais, écoutez, je vais jouer, mais est-ce que je peux être gardien de but? Mais le problème, c'est que gardien de but, j'encaissais tous les buts et toute l'équipe perdait. Donc, on aurait voulu même me donner plutôt le rôle de numéro 11 pour dribbler ou rater les dribbles que de faire perdre l'équipe. Donc, j'étais plutôt un peu retiré de cela et... il y avait aussi cette espèce quand même de solitude, puisque dans la maison, il y avait que le père et la mère. Donc, ça résumait déjà le monde en plus petit. J'écoutais les conversations à gauche et à droite. Et comme je dis toujours, c'est moi qui passais le sel à ma mère, puis la fourchette à mon père, puisque j'étais toujours au milieu, tandis qu'ils étaient de part et d'autre.
Quoi. C'était un peu le rôle des enfants uniques à table, souvent. Voilà. Parfois, ils passent d'autres choses, mais ils servent de lien. Est-ce que la littérature avait déjà une place dans votre famille, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que les livres, en tout cas, il y en avait une?
Oui, il y avait. Bon, déjà, bon, ma mère était analphabète, donc elle ne pouvait pas lire, elle ne pouvait pas écrire. Mon père, lui, s'était arrêté au certificat d'études primaires, mais le fait qu'il travaillait dans un hôtel, donc il était dans la pratique, au moins, de discuter avec les Français qui venaient, de lire les journaux de l'époque. Et puis, finalement, il avait cette habitude de ramener les livres à la maison. C'est des livres que les Français en voyage jetaient à la poubelle. Et lui, il les ramenait dans l'espoir de les lire quand il serait à la retraite. Mais il n'a jamais lu. Et une fois la retraite arrivée, il n'a jamais lu ses livres. Et moi, c'est derrière cette espèce de poubelle littéraire que j'allais fouiller les livres. C'est là que j'ai trouvé les livres de San Antonio. C'est là que j'ai trouvé beaucoup de bandes dessinées. Également, à l'époque, les journaux comme Le Podium et Salut le copain, puisqu'on jetait également. Donc, j'ai fait mon petit marché dans cette espèce de bibliothèque qui était réservée à la retraite de mon père.
Voilà. On a appris ici que Gaëtan Soucy avait appris à lire dans la Bible, que Hélène Dorion avait appris à lire l'Encyclopédie médicale, qui était le livre qu'il y avait chez elle. Et donc, vous auriez appris à écrire dans San Antonio, à lire.
Ah oui, mais parce que...
Ça ouvre des perspectives incroyables.
Oui, contrairement à ce qu'on a souvent pensé de San Antonio... ce qui me plaisait en lui, c'est que c'est cette espèce d'invention langagère.
Ah oui, bien sûr.
C'est-à-dire que...
Il a inventé une langue.
À lui seul, il avait sa langue. Mm. Et en plus de ça, non seulement il avait la langue, mais il avait la capacité de retenir l'attention du lecteur du début jusqu'à la fin.
Oui.
Il savait faire les digressions, c'est-à-dire que j'ai... Pourtant, c'était un roman policier. Les gens se disent, un roman policier, on n'a pas le temps de faire de la poésie ou bien des jeux de mots. Non, lui, c'était un roman policier, mais je ne le lisais pas en tant que roman policier. Je lisais une œuvre littéraire avec des formules alambiquées, parfois
machistes. Mais est-ce que d'emblée, ça ne vous a pas, sans doute, peut-être inconsciemment, mais donné une sorte d'autorisation immédiate à jouer avec la langue française, ce que vous-même, vous faites, bien sûr, avec une autre, toute une autre dimension, mais avec ô combien de talent et de poésie aussi dans vos romans. Vous avez vous aussi, et puis aussi le rythme, parce que dans San Antonio, enfin dans Frédéric Dard, pour donner le nom quand même de l'auteur, il y a ce rythme qui l'a inventé et qui est indissociable.
Oui, c'est cela que plus tard j'avais vu que j'avais découvert que San Antonio, sa lecture aussi préférée, c'était Céline.
Oui.
Céline, comme par hasard. Qui était un écrivain aussi de langue. Donc, du coup, en lisant peut-être San Antonio, c'est par San Antonio que je suis arrivé à les lire également, Ferdinand, Céline. La force, justement, de San Antonio, c'était de pouvoir masquer une culture très pointueuse dans une espèce de fausse légèreté. Du coup, les intellectuels sérieux pensent que c'est de la paralittérature. Et en réalité, on trouve plus à manger dans les romans de San Antonio que dans les romans les plus sévères ou qui veulent jouer vraiment...
Ceux qui ont pris le plus de liberté avec la langue française sont aussi ceux qui l'ont le plus enrichi dans l'histoire. Mais nous, on va revenir à ça parce qu'on est encore à Pointe-Noire, là.
Okay,
on est à l'école primaire, là, pour l'instant.
D'accord.
Alors, comment se passait, justement, cette éducation à l'école à Pointe-Noire pour vous ?
Donc, à l'époque, c'était une école communiste. Donc, tout le monde était en kaki. Donc, vous voyez que j'ai toujours gardé l'esprit de l'école primaire, le kaki ne me quitte jamais, donc c'est toujours faut rester fidèle à son enfance. Donc quand je vois la couleur kaki, ça me rappelle justement cette époque de la révolution socialiste qui tombait au Congo. Nous étions habillés en kaki, donc à l'école primaire les culottes, puis au lycée les pantalons comme ça, et après on portait des foulards rouges avec bien l'étoile symbolisant notre alliance avec l'Union soviétique, et on avait une espèce d'éducation qui commençait par l'instruction civique, mais pas civique n'importe laquelle. C'était apprendre les principes du marxisme-léninisme. Hein, c'était vraiment, on devait savoir qu'est-ce qu'un prolétaire, qu'est-ce que le capitaliste qui vient manger le pauvre pain des petits ouvriers, et les prolétaires de tous les pays devaient s'unir. Et on s'appelait toujours camarades membres, puisque nous étions censés être les membres du Parti congolais du travail, le PCT, le port qui existe toujours. Donc les étudiants étaient les camarades membres, donc on n'était pas les collègues, mais camarades membres, donc à la cour de récréation. J'imaginais les gamins de 11-12 ans, comment ça va, camarades membres? Oui, ça va. Et puis ça s'est passé toujours de la sorte. Et puis nous récitions l'international, et nous faisions le drapeau, et puis existait toujours à cette période quand même l'étude aussi de notre histoire. Ça, c'était quand même une espèce de surprise, parce que d'un côté, on nous mettait la pression communiste, mais de l'autre, il n'était pas interdit d'étudier, par exemple, l'histoire du capitalisme ou de l'histoire de la France. Normalement, ça aurait été antithétique. On aurait dit, ah non, 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 la France est un pays capitaliste. De l'autre côté, on n'étudierait que ce qui revient de l'Europe de l'Est, non ?
Surtout que dans les années 60, elle l'était véritablement. En quelle année est-ce que le Congo est devenu indépendant, d'ailleurs ?
En 1960.
Mmh. Et donc là, il y avait quand même pas uniquement ça dans l'école primaire. Quelles étaient votre matières ?
63, exactement.
63.
13, 14, 15 août, oui.
Quelques années avant que vous naissiez. Quelle était votre matière préférée à vous déjà à cette époque-là ?
Alors, à l'époque, j'aimais bien la botanique parce qu'on dessinait beaucoup. Parce que je voulais devenir un dessinateur de bande dessinée, mais ça n'a jamais marché, parce que ce n'était pas évident de trouver une école.
Finalement, vous avez écrit les textes
voilà.
Uniquement.
Toutes les matières où il y avait des dessins à faire, comme la géographie, j'ai dessiné la carte de Chine, je savais poser tous les fleuves, y compris le Yangtze-Kiang, tout était à l'intérieur. J'admirais surtout les cartes hydrographiques du monde, parce que c'est là où on voyait un peu que nous étions quand même bien entourés d'eau. Et en dehors de la géographie, donc il y avait des cours de dessin aussi. Mais par contre, pour les disciplines scientifiques, j'étais vraiment plus que nul, comme on dit, puisque les mathématiques, ça me faisait très mal à la tête. La physique, je ne comprenais pas parce que c'était abstrait. La chimie, c'est la même chose. Les autres font la chimie dans un laboratoire. Mais nous, on nous disait, imaginez une éprouvette dans laquelle il y a tant de cyanure et qu'on ajoute tant de ceci. Alors, c'était déjà, il fallait savoir qu'est-ce qu'une éprouvette. Je n'en ai jamais vu.
Ça devenait littéraire.
Voilà.
Histoire.
Donc, voilà. C'était déjà littéraire. On nous demandait de mettre de la fiction sur des choses scientifiques, donc pour des sciences exactes. Donc, c'était plus de nature à nous en éloigner qu'à nous rapprocher. Et du coup, eh ben, mon aversion, pas même aversion, mais ma peur de faire les disciplines scientifiques était arrivée à cet instant. Et en Afrique, comme dans beaucoup de pays, c'est que, en général, lorsqu'on prenait les élèves des lycées, en général, n'étaient respectés que ceux qui faisaient les disciplines scientifiques.
Mais ce n'était pas qu'en Afrique, je peux vous dire.
Ah, d'accord. Tandis que ceux qui faisaient les disciplines littéraires étaient considérés, mais comment vous faites des études pour les femmes? C'est pas possible. Et nous, on s'embarquait. Donc, la grande peur de quelqu'un, c'était d'aller faire les lettres. Tout le monde voulait faire les sciences. Et moi, par contre, j'avais peur qu'on m'envoie faire les sciences. Alors, je me suis dit, comment ça va se passer, puisque le gouvernement a besoin des scientifiques, c'est sûr qu'on va m'envoyer en sciences. Et à la fin de l'année, celui qui était chargé de l'orientation a écrit sur mon bulletin, élève très faible en mathématiques, physique et chimie, je m'oppose à son inscription dans les classes scientifiques. Alors, c'était le désespoir de mon père, mais moi, je souriais sous cap, puisqu'on venait de m'éviter les sciences. Donc, du coup, je suis allé justement faire lettres et philosophie. Voilà.
L'adolescent que vous étiez, quand vous y pensez aujourd'hui, vous le voyez comment ?
L'adolescent que j'étais, quand j'y pense, je me vois toujours en train de lire La gare des Michards au lieu d'aller jouer au ballon. Je me vois toujours en train d'écrire des petites poésies aux jeunes filles pour les charmer, puisque à l'époque, on pensait que la poésie, c'est pour ceux qui veulent draguer les femmes. Donc, tandis que le roman, c'est pour ceux qui racontent les vraies histoires. Donc, du coup, c'est ce que, en tout cas, dans notre petite tête, on pensait. On se disait toujours, je voudrais être poète pour avoir toutes les femmes du monde. Et puis, je me suis rendu compte que ce n'était pas toujours évident et que ce n'est pas toujours par la poésie que ça marche.
Et que c'était parfois par le roman.
Et parfois, oui, ça peut arriver. Mais bon, hein, c'était ça. Donc, je me vois toujours dans ce sens. Et puis, la curiosité qui faisait que j'allais acheter les livres dans les...
Donc, voilà. C'était quand même une éducation qui était encore très marquée par la France, moi aussi fait mes études en France. Le Lagarde et Michard, c'est la Bible de la littérature et il était tout à fait obligatoire. Donc c'est quand même quelque chose qui n'avait pas été exclu et expurgé du Congo, même après l'indépendance.
Non, ce n'était pas du tout exclu. D'ailleurs, ça permettait de voir les écrivains à l'intérieur, ils prenaient, parce que vous savez, il y avait toujours Victor Hugo avec la grosse barbe, Alfred de Vigny bien habillé, Charles Baudelaire avec une espèce de nœud de papillon. Et puis, ça nous donnait des images de qu'est-ce que l'écrivain. C'est peut-être par là que beaucoup d'écrivains, quand ils prennent des photos, ils prennent toujours la posture avec une main ici et puis leur œuvre derrière le mur bien arrangée, des livres qui brillent, à l'instar, on les lit jamais, mais c'est là pour le décor. Donc, je pense que c'est parti de ça permet de rêver, oui. N'est-ce pas, du statut de l'écrivain.
Ce sont des personnages. C'est vrai s'ils sont devenus des personnages, quand on les voit, en tout cas quand on les voyait dans les pages du Lagarde et Michard, ils avaient l'air eux-mêmes d'être des personnages.
Oui, ils étaient des personnages. Et l'avantage de ce livre, c'est que c'était des extraits. Donc, vous n'étiez pas obligé de lire Les Fleurs du Mal en intégralité ou l'ensemble des méditations poétiques d'un Vigny. Vous avez les extraits. Parfois des textes que nous récitions à l'école, par exemple La mort du loup d'Alfred de Vigny, ou simplement Il pleure dans mon cœur, quelque chose de Verlaine. Et ce qui fait que nous allions à l'essentiel et ça nous donnait le goût même de la littérature. La manière, la disposition dans la page, comment c'était écrit, les dessins de l'époque, les histoires qui émaillaient à côté aussi.
Mais moi, quand je regrette la disparition du Lagarde et Michard, pour mes enfants, par exemple, on me dit que je suis démodée, mais je reste toujours sur cette notion-là. Il y a d'autres enseignements. À quel moment est-ce que l'idée d'être écrivain s'impose, je dirais, plus consciemment? Est-ce que ça s'impose déjà à cette époque-là ou beaucoup plus tard?
Je pense que on n'a pas parfois conscience dès le départ du fait que on va se dévoiler à l'écriture, mais des éléments au fur et à mesure vont faire de sorte que vous avancez vers une direction qui est celle-là. Par exemple, le goût de la lecture et puis le goût de vouloir toujours noter ce qu'on fait. Et il faut aussi, en dehors du fait qu'on peut être, comme on dit, né pour ça, mais il y a aussi des paramètres qui sont là pour accompagner cela. C'est-à-dire que l'idée aussi doit être là. On est souvent, on devient ce qu'on veut devenir.
Oui.
Et on passe sa vie à le dire, je veux devenir celui-ci, et on finit par le devenir un jour. Sinon, on resterait à la maison pour dire, bon, je suis un génie, je veux devenir un écrivain, et puis j'attends, je le ferai en 2015, et ça ne viendra pas, puisque derrière, il y a le travail, il y a la lecture, il y a cette espèce de dévotion qu'on donne. Mais disons que c'est vers la fin des années du lycée que je l'ai su, puisque j'écrivais déjà quelques poèmes dans les cahiers, et je m'étais dit, quand j'irai en France, je sortirai mes livres.
Est-ce qu'il y a un livre en particulier, ou plusieurs livres, qui aient marqué vraiment votre adolescence et, d'une certaine façon, aient pu vous influencer?
Les livres qui m'ont marqué, ils sont d'ailleurs plus de 250, et tous, ils sont dans mon roman « Vers cassé », hein, dans lequel j'ai fait le catalogue de ce qui se trouve dans ma bibliothèque idéale, les livres qui m'accompagnent.
Les livres et les écrivains.
Les livres et les écrivains qui m'accompagnent, dont un des piliers, c'est d'ailleurs Daniela Ferrière, qui est ici.
Qui revient à plusieurs reprises.
Voilà, qui revient à plusieurs reprises. Mais autrement, le livre que j'ai beaucoup lu, avec beaucoup d'émotion, c'est le livre de ma mère, d'Albert Cohen.
Oui.
Hein, parce que simplement, ça parle de la maternité, de la mère, et que moi, je suis venu à l'écriture par ce biais, par le fait que quand j'ai regardé ma mère, je voyais comme si c'était même, elle symbolisait même l'écriture en tant que telle, et que par la suite, à sa disparition, c'est à partir de là que j'ai commencé à écrire intensément et sans relâche, tous les jours, toutes les nuits. Dès que je suis seul, pas avec des amis, je me mets toujours à écrire.
Vous avez dit de ce livre qu'il est pour vous le livre que tous les écrivains auraient voulu écrire pour leur mère. Mmh. Moi, j'ai remarqué que il y a deux livres dont les écrivains parlent comme ça. Les uns, pour les uns, c'est La promesse de l'aube de Romain Gary. Pour les autres, c'est Le livre de ma mère d'Albert Cohen. Mmh. Que feriez-vous comme différence entre les deux ?
Mais je pense que c'est parce que les deux portent en eux la sensibilité. Un livre est vrai parce que l'auteur a donné ce qu'il a de profond, de plus profond en lui. Peu importe alors le langage par lequel il utilise. Un livre est vrai parce que dès que nous le lisions, on ne cesse d'y penser. Et le mieux même, c'est que quand on revient pour le lire, on n'a pas l'impression qu'on revient relire un livre, on redécouvre chaque fois une autre émotion en revenant sur un livre. Donc, c'est ce que je fais, par exemple, lorsque j'ai relu Le cahier d'un retour au pays natal de Césaire. Pourtant, je l'ai lu plusieurs fois, mais quand je reviens, je retrouve encore la grandeur de l'écrivain, la force de cet écrivain. C'est ce que je ressens lorsque je lis Albert Cohen, et que de trouver qu'avec les mots les plus simples, les images les plus directes, il arrive à parler de la maternité comme presque jamais personne n'en a parlé. Et en plus, à montrer comment son inspiration, il se ferme carrément, il a la posture même déjà de l'écrivain.
Oui.
Quand il dit « je n'écouterai pas ce que diront les autres aux alentours, mais je veux me consacrer à écrire mes petits mots, même s'ils sont petits, mais je les trouverai pour dire sincèrement à cette mère qui a disparu ce que son enfant lui doit. »
Ce que ces deux livres ont en commun, c'est que ce sont des mères qui, effectivement, façonnent leur fils quasiment pour devenir écrivain. Mmh. Dans les deux cas, bon, dans le cas de Romain Gary, c'en est absolument incroyable, puisqu'elle lui écrit des lettres qui, en fait, bien après sa mort, elle continue à écrire. Est-ce qu'à un moment donné, regretter, ou quel rôle ça a pu avoir comme influence aussi sur vous, que vous n'ayez pas pu partager peut-être la littérature avec votre mère, ou votre amour de la littérature avec elle?
Oui, c'est le regret, mais parallèlement, parce que j'avais constaté aussi que elle avait au moins une idée de ce que c'est que la littérature, parce que elle avait vu quand même quand j'avais publié mon premier livre en 1993.
Oui.
Donc c'était un recueil de poèmes que
je me suis dit
elle est analphabète, elle ne lit pas, elle n'écrit pas. Bon, on va le lui envoyer. Bon, elle a feuilleté, elle a dit mais il y a pas de dessin parce qu'elle voulait voir les images. Elle a dit mais il y a que les mots là, il y a que les images. Et puis quand elle avait vu par exemple une émission que j'avais fait à la télé, elle ne comprenait pas que son fils soit là comme nous. Quelqu'un lui pose des questions et il est en train de répondre. Et elle m'a dit, mais pourquoi cette femme-là t'a posé des questions comme ça? Tu n'es pas obligé de répondre. Donc, il fallait que je lui explique. Non, il s'agit d'une interview. Je faisais la promotion du livre. Mais oui, mais bon, il t'a posé des questions comme à l'école. Donc, ça lui a rappelé que c'était l'école alors que son enfant avait terminé les études.
Muhtar Benjelloun a dit que bien que sa mère était analphabète et en plus ne parlait pas le français, que c'est la première personne qu'il appelait quand il avait fini d'écrire un livre, et aussi que c'était finalement la personne à laquelle il destinait ses livres.
Mais c'est mon cas de tous mes romans, de Bleu, Blanc, Rouge à Mémoire des Porcs Épiques, tous sont dédiés à ma mère. Tout simplement pourquoi jamais je ne commence un livre sans pour autant que le livre ne soit la poursuite d'une histoire qu'elle, elle a suscitée.
En tout cas, c'est le cas très clairement indiqué pour Mémoire de Porc-Épic. Mm-hmm. On va y revenir. Pour l'instant, on est presque sur le point de partir du Congo pour s'en aller vers la France. Votre mère, néanmoins, vous l'avez dit, vous voyez avocat. Est-ce que c'est pour ça que vous vous destinez à partir en France, faire vos études?
Oui, puisque après que j'avais eu le baccalauréat en lettres et en philosophie, alors, bon, ma mère ne voulait pas que je sois professeur parce qu'il pensait qu'ils n'ont pas d'argent. Tous les jours, ils souffrent à gérer les enfants. Je veux pas que tu sois professeur. Il faut que tu sois juge ou avocat. Comme ça, il disait comme ça, je pourrais avoir une grande table au marché. C'est-à-dire que il pourrait venir, mon fils, il est avocat, donc reculé, je vais avoir toute la table. Mais il comprenait pas que il y avait des procédures de licence, de patentes et autres. Donc, du coup, j'étais resté dans l'esprit. Je me dis, pour lui faire plaisir, je vais faire du droit. Et quand je suis arrivé en France, je me suis inscrit à la faculté des droits, où j'ai fait les études des droits jusqu'au troisième cycle des droits des affaires.
Votre père, lui, avait-il, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous aviez, en fait, c'est indirectement par lui que vous étiez accédé au premier livre chez vous, mais néanmoins, quelle était lui, ses relations avec la littérature et avec vos études aussi, qui étaient des études littéraires et humanistes?
Lui, il était averti dans le sens où il lisait plus les journaux que les romans ou autres. J'ai jamais vu mon père lire un livre. Donc, dans mon enfance, je n'ai pas vu mes parents ouvrir un livre pour le lire. Certains ont la chance, ils voient leur père sous un manguier, les jambes croisées, en train de dévorer à la recherche du temps perdu de Proust. Mais moi, j'ai jamais vu ça. C'est une image qui, pour moi, était inconnue. Mais par contre, je l'ai vu ouvrir, à l'époque, même l'Express, le Paris Match. Je me souviens, celui qu'il avait ouvert en dernier, c'était celui qui rapportait l'enterrement du général de Gaulle. Oui. Et ça avait d'ailleurs défrayé la chronique, puisque il ouvre le Paris Match, comme le cercueil de Gaulle était grand, donc il a fallu installer le tout en deux pages. Hein, donc, avec 12 personnes qui colportaient la bière, le cercueil. Et finalement, il y avait un titre où c'était écrit « Le général de Gaulle va être enterré à Colombey-les-Deux-Églises ». Alors, mon père qui explique à ma mère, oui, on va enterrer le général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises. Et ma mère qui dit, mais c'est pas possible, les Blancs, maintenant on enterre les gens dans les églises. Et il fallait lui expliquer que Colombey-les-Deux-Églises, c'était sa ville, et ainsi de suite. Donc j'ai gardé toujours de Paris Match cette image qui est là. Paris Match qu'on retrouve d'ailleurs même quelques évocations dans Vers cassé.
Je voulais vous poser une question sur les relations entre le Congo et la France et l'image vous aviez de la France, justement, parce que j'ai une petite idée derrière la tête. Après, c'est plutôt par rapport à la francophonie. Mais là, à cette époque-là, quelle était votre vision de la France et qu'est-ce que vous en attendiez?
Mais c'était une vision de tout jeunes africains, parce que quand on vit en Afrique, on pense toujours que la France, c'est le paradis. Donc, le rêve de chacun, c'est d'aller en France, c'est d'aller chercher la fortune pour revenir un jour et devenir riche. Et de ce fait, ce rêve est si obsessionnel pour la jeunesse africaine que la plupart du temps, beaucoup, lorsqu'ils commencent à écrire des romans, commencent d'abord par le roman du voyage. Ce que j'avais fait avec Bleu, Blanc, Rouge en 98, ce que Fatou Diome a fait avec la préférence nationale, le ventre de l'Atlantique, ce que Gaston Paul Effa, le Camerounais, a fait avec Tout ce bleu, ce que même les Waberi aussi ont fait, mais un peu plus tard avec Transit, ce que Calix Beyala aussi en a fait. Presque tout écrivain africain a souvent écrit le roman du voyage en France. C'est ça le paradoxe.
Mais peu ou prou, ça s'applique à tous les étrangers.
Là, oui.
C'est particulier parce que c'est le rapport entre l'Afrique ex-française et la France, mais c'est peu ou prou vrai pour quiconque veut.
Oui, oui, oui. C'est valable pour tout le monde en général. Hein. Tout expatrié a toujours ce problème de voyage qui parfois peut constituer l'ensemble de son œuvre.
Et donc, vous la voyez comme ça, mais qu'est-ce que vous en attendiez, vous, de la France ? Quand vous avez fait vos valises pour partir, faire vos études, vous en attendiez quoi ? Vous imaginiez revenir au Congo pour y exercer ? Vous y alliez juste pour faire vos études ou avec le rêve d'y rester ?
Non, mais moi, comme tous les étudiants, on allait dans l'espoir de finir le doctorat, puis rentrer au pays pour travailler. Mais le fait que lorsqu'on s'éloigne comme ça, les années passent, on reste sur place, d'autant plus que pour nous, Congolais de Brazzaville, c'était compliqué. La période qui correspondait au retour au pays était la période où le pays s'était lancé aussi dans des guerres civiles meurtrières pendant plusieurs années. Oui. Donc, c'était pas évident de revenir dans une situation où il y avait le chaos dans le pays. Ce sont vos parents qui souffrent du fait que vous arrivez et que vous mettez votre vie en danger alors que le seul espoir qu'ils ont, c'est vous. Donc, on vous protège même en vous disant non, restez là-bas. Ou... Donc, du coup, je me suis presque accoutumé à mon statut d'oiseau migrateur. Donc, je le trouve aussi, peut-être, il va avec mon parcours.
Oui, c'est ça, mais est-ce que vous n'y a pas eu aussi à ce moment-là un sentiment d'exil au sens où Daniela Ferrière, j'en ai longuement parlé avec lui ici, a dit qu'il y a deux types d'écrivains, puisqu'on ne peut pas dissocier de manière, je crois, générale la littérature du voyage ou en tout cas du déplacement, mais il y a deux types d'écrivains. Il y a ceux qui sont exilés, qui n'ont pas vraiment choisi de partir ou en tout cas qui ne peuvent pas revenir pour beaucoup de raisons. Et ceux qui sont allés voir ailleurs, parce que l'ailleurs est forcément synonyme aussi de littérature. Mmh. Et dans votre cas, c'est un peu un mélange des deux. On dit, vous êtes parti volontairement avec un rêve, mais comme si la terre s'était coupée un peu sous vos pas.
Oui, c'est-à-dire, pour moi, c'était un mélange des deux. Le départ est bien sûr volontaire, et puis derrière se greffe aussi... la situation d'un pays qui est en déliquescence, donc quand un pays est en guerre civile ou quoi, même si vous êtes parti volontaire, vous êtes déjà dans l'état de l'exil, quel que soit le camp dans lequel vous êtes, parce qu'il y a une guerre chez vous, forcément vous êtes ailleurs puisque vous ne pouvez pas repartir à n'importe quel moment. Donc, forcément, on vous a imposé un calendrier de mouvement. Donc, vous ne pouvez pas rentrer dans votre pays parce que les balles tombent de partout, alors que vous pouvez aller dans un autre pays comme vous voulez.
Est-ce que, et il n'y a aucune dimension morale dans ce que je vais vous dire, bien entendu, quand on a été un petit garçon élevé pour être un camarade et collègue, et solidaire aussi de ce nouveau pays, et qu'on s'en va et qu'on va devenir un écrivain français, est-ce qu'il n'y a pas une notion de trahison qu'on peut ressentir ou qui vous est vue comme ça ?
Bon, jusqu'alors, on ne m'a pas fait encore le procès de la trahison, mais je ne pense pas que ça soit une trahison, parce que sur le plan national, je vois bien que le gouvernement, les institutions sur place au Congo en tirent profit pour dire qu'il est de chez nous. Bon, en France, on m'a ajouté. En France, on m'a ajouté maintenant franco-congolais, ce qui a agacé les Congolais, puisqu'on a dit bon, avant il était congolais, maintenant pourquoi vous ajoutez français? Quelqu'un a même dit mais pourquoi pas congolo-français? Pourquoi d'abord franco-congolo alors qu'il était d'abord congolais? Donc c'est des querelles de chapelle. Mais ce qui fait, c'est bien que l'écrivain justement ait plusieurs tentacules, puisse pouvoir graviter autour. L'écrivain appartient à celui qui le lit, quelle que soit sa nationalité.
Quand vous écrivez bleu, blanc, rouge, en tout cas quand il paraît, en 98, donc c'est le premier roman que vous publiez à la maison d'édition Présence africaine, à partir de ce moment-là, est-ce que le Congo devient justement un pays littéraire ? C'est-à-dire un pays que vous allez, à travers tous les livres, tous les romans qu'on connaît, recréer.
Oui, tout à fait.
Recréer un Congo idéal dont vous reprenez ce qui vous importe et que vous le transmettez.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, et d'ailleurs même l'ensemble même de tous les livres que j'écris gravit toujours autour de ce Congo. Et j'ai senti justement que cette espèce de détachement de mon pays natal m'a donné même l'exigence, presque même une espèce de force irrésistible de pouvoir redessiner un pays, mais un pays dont j'ai regardé fatalement une photo plutôt en noir et blanc, puisque je l'ai quitté à 21 ans et j'ai gardé les souvenirs de jeunesse. Ma plus grande satisfaction, c'est souvent de voir d'ailleurs les Congolais venir me dire: comment fais-tu pour pouvoir décrire avec précision la manière avec laquelle nous vivons alors que ça fait plus de 20 ans que tu as quitté le pays? Justement, c'est tout simplement parce que dans le rêve qu'on se fait, c'est le même rêve que je faisais quand j'étais jeune. J'imaginais un certain Congo et dans la tête de beaucoup de jeunes, c'est le même Congo auquel ils pensent.
Mais Virginia Woolf disait, en 17 ans de vie, on a suffisamment de matière pour écrire jusqu'à la fin de ses jours, et même en moins de 17 ans.
Je suis d'accord avec cette assertion. Hein. C'est vrai qu'à partir de 17 ans... Ce qui compte, c'est justement l'enfance. La plupart des écrivains vont puiser dans cette enfance. Et l'enfance nous donne beaucoup de capacités parce que nous avons à ce moment-là un jugement innocent. On ne colle pas les préjugés aux gens. On ne donne pas une mauvaise réputation. L'enfant regarde et c'est la société plus tard qui va le dire: celui-là, il est noir, il a fait ceci, celui-là il est blanc, il t'a fait ceci. Et c'est à partir de là que la corruption, entre guillemets, va commencer. Mais tout le long de notre enfance, si vous prenez un enfant, je sais pas, 3-4 ans, à qui on n'a rien dit sur l'origine des races, vous les laissez vivre, ils ne découvriront pas de sitôt que le sens même de qu'est-ce qu'être noir, ils vont être comme des enfants et ils vont regarder. À la rigueur, ils se diraient: ah, toi tu es noir. Ils se poseront des questions auxquelles nécessairement, ils ne veulent pas donner des réponses.
Mais là, on est au début. Là, on en parlait d'un livre paru en 1998, mais votre premier livre, c'est 1993, c'est Au jour le jour, c'est un recueil de poésie, le premier des 6 recueils de poésie que vous publiez. Je disais tout à l'heure qu'ils vont être maintenant republiés. Ça, c'est un travers de l'édition française, d'ailleurs, franco-française, considérer la poésie ou les nouvelles écrites par des romanciers comme leur sous-genre un peu, et de les publier que lorsqu'ils deviennent vraiment très célèbres et qu'ils gagnent un grand prix. Mais vous travaillez à cette époque-là pour une grande société d'assurance française. Et comment s'est passée l'histoire de cette première publication? Parce que ça, c'est quand même un événement tout à fait...
Oui, l'histoire de... En dehors de la poésie, c'est toujours difficile de publier la poésie.
Oui.
C'est-à-dire qu'au départ, on est parfois obligé même de payer pour publier de la poésie. Ce qu'ils appellent le compte d'auteur. Les poètes, à 70%, font du compte d'auteur. Donc, ils doivent sortir de l'argent de leur poche, payer l'éditeur de poésie pour qu'il leur fabrique 200 exemplaires qui ne se vendront pas puisque ils n'ont pas de moyens de diffusion. Les librairies ne veulent pas des livres qui sont fabriqués par les auteurs eux-mêmes. Ils sont obligés d'être comme des VRP. Ils passent de librairie à librairie avec un sac pour convaincre. Donc du coup, par exemple, mon premier recueil, Au jour le jour, c'est un recueil qui n'a pas été publié par un éditeur, mais par une revue.
Oui.
La revue Rencontre Poétique, qui faisait des suppléments des auteurs qu'ils avaient aimés à l'intérieur. Et moi, on m'avait fait un tiré à part, à l'intérieur. Donc du coup, c'était même pas, c'était tiré à 150.
Oui, mais ça c'est considérable. Évidemment, voilà. Beaucoup de poètes ont commencé comme ça dans les revues, et heureusement.
Mais pour le roman, c'était un peu plus délicat puisque de 93 à 98, je ne publiais que de la poésie. Et puis quand j'avais terminé le manuscrit de Bleu, Blanc, Rouge, tout le problème c'était de trouver un éditeur. Tous les éditeurs de France avaient dit non. Oui, malgré l'intérêt que nous accordons à votre manuscrit, notre collection ne permet pas... Gna, 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 gna.
J'ai l'impression de reconnaître une lettre.
Voilà, j'en ai des lettres de ce genre. Et à l'époque, j'étais même naïf, puisque quand j'ai envoyé aux éditions Stock le manuscrit justement de Bleu, Blanc, Rouge, ils nous disent « Notre programme est chargé pour au moins 3 ans ». Je me suis dit, mais super, je vais les appeler pour leur dire, je ne suis pas pressé, j'attends 3 ans. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le téléphone, j'appelle. À l'époque, ils étaient vers Présence africaine. J'appelle, je me dis, bonjour, je suis Alain Mabankou, j'ai envoyé un manuscrit. Et vraiment, je vous remercie de m'avoir répondu. Ah, donc, c'est favorable. J'ai dit, oui, c'est favorable. Mais seulement, bon, comme votre programme est chargé, je voudrais que vous me prévoyez dans 3 ans. Le monsieur m'a dit, cher monsieur, ça veut dire qu'on a refusé votre manuscrit. Il a dit tout net, et puis voilà, il m'a remis les manuscrits, je suis rentré. Et puis c'est là que, comme Stock n'était pas loin, je suis allé le donner à Présence africaine, qui a répondu 7 ou 8 mois après. Parce que c'était au moment où je devais prendre le manuscrit pour aller donner à un ami qui connaissait quelqu'un qui pouvait le lire le plus rapidement possible. Et il me demande, mais tu as le manuscrit ? Et je vais à la maison, il n'y en a pas. Et à l'époque, j'étais étudiant, donc on tapait encore à la machine, on n'avait pas les imprimantes, donc avec du blanc. Je suis retourné, je n'ai pas trouvé. Et en regardant dans la liste des refusés, je vois qu'il y avait Présence africaine qui n'avait pas répondu depuis 7 ou 8 mois. J'ai dit, bon, je vais aller là-bas. Je reprends ce manuscrit et puis je l'amène chez ce monsieur qui le ferait lire chez un gars des éditions Grasset. Et j'arrive à Présence africaine. Il passe au moins 2 heures à fouiller le manuscrit, le Bleu, Blanc, Rouge, sans le trouver. Et c'est là, à ce moment où j'ai commencé maintenant un peu à hausser le ton. J'ai dit, c'est pas possible. Vous avez perdu le manuscrit. Et Madame Diop fouille dans les documents qu'il met en bas. Au moment où il allait me remettre, quand elle ouvre, il y avait une lettre d'acceptation qui était là, qui n'était jamais envoyée depuis 7 mois. Voilà. Et voilà. Il a dit, ah, non, 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 vous ne l'amenez pas chez Grasset, on le publie ici. Et c'est comme ça que j'ai publié à Présence africaine.
Ouais. Mais vous allez en publier d'ailleurs un autre. J'ai vu en regardant dans votre site que vous rendiez hommage, bien sûr, à cette éditrice. Moi, je voudrais que vous me disiez quand est-ce que vous vous êtes assis à votre bureau ou à votre table en vous disant, voilà, cette fois, je vais vraiment écrire un roman et je vais oser le faire avec l'intention de publier. Quand est-ce que c'est devenu conscient, volontaire, et que vous avez commencé ce cheminement qui est toujours un cheminement très très long?
Mais je crois que j'étais persuadé que écrire un roman, c'était pas, il fallait une imagination exceptionnelle. Je ne pouvais pas concevoir raconter en quelque sorte une histoire. Donc l'écriture, par exemple, de Bleu, Blanc, Rouge était pratiquement incité par le directeur de la revue qui s'appelait la Revue Noire. Ça faisait l'art. Beaucoup des écrivains de la nouvelle génération sont nés par la Revue Noire. Rari Manana, le Malgache, oui. Waberi, les Djiboutiens. Nous sommes tous des écrivains de la génération Revue Noire. Et à ce moment, il faisait un numéro spécial pour la ville de Paris. Et on demandait aux peintres, aux romanciers de donner un texte. Et moi, on m'appelle. Je me dis, bon, je suis poète, je vais donner un texte poétique. Ils me disent, non, ça serait bien que ce soit une nouvelle. Je dis, non, mais je ne peux pas écrire une nouvelle, je n'ai pas l'imagination. Ils non, tisser une histoire, trouver une histoire au moins que ça raconte, parce qu'on avait déjà fait un numéro sur la poésie, et ainsi de suite. Et puis, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Et j'avais presque dit, non, je ne participerai pas. Et puis, quand je suis rentré chez moi, l'idée me trottait dans la tête, une nouvelle. Une nouvelle. Et puis, bon, rien. Et puis, le soir même, un ami est venu me voir. Il revenait d'Italie. C'était ce qu'on appelle les sapeurs parisiens. Il va acheter les habits là-bas, il amène en France pour vendre dans le ghetto, ainsi de suite. Quand il est venu me voir, il m'expliquait ses péripéties. Et puis l'idée m'est venue, je dis, mais si je faisais une histoire sur lui. Et j'ai écrit une nouvelle qui s'appelle L'Italien, l'histoire de celui qui allait en Italie acheter les habits, revenait ici avec un bruit d'immigration, ainsi de suite. Et c'est à ce moment il m'a dit, mais c'est très bien, tu pouvais en faire un roman. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à écrire Bleu, Blanc, Rouge. Et l'histoire de l'Italien est à l'intérieur de Bleu, Blanc, Rouge, justement.
Oui, mais justement, est-ce que vous aviez vraiment besoin de cette autorisation-là ou d'une façon différente de vous voir ? Parce que vous vous conceviez comme un poète. Pour quelle raison est-ce que vous ne vous conceviez que dans ce genre-là ?
Non, je ne me concevais pas, mais c'était le genre dans lequel je me sentais le mieux.
Oui.
Bon, son autorisation n'était pas en tant que telle déterminante, puisque parallèlement en écrivant de la poésie, je lisais beaucoup de romans. C'est-à-dire, quand je suis arrivé en France, j'ai pratiquement commencé à avaler toute la littérature russe, latino-américaine, les Mishima, les tout. Donc, je commençais à voir un peu le monde dans sa globalité. Et finalement, ça façonnait même dans ma propre poésie, ça se ressentait. J'ai quitté le vers pour devenir plus prosaïque. Ce que j'appelais poème, je ne l'appelais plus poème, ça s'appelait récit-poème. Là, par exemple, la légende de l'errance dans laquelle je raconte la vie, la mort de ma mère, c'était un long poème du début jusqu'à la fin sans un point. Donc, ça ressemblait presque déjà à un récit.
Oui.
Donc, lui, il est simplement venu me rassurer dans quelque chose en se disant, tu peux écrire un roman, l'imagination, ça se creuse, ça se travaille, si on ne rentre pas dans la piscine, on ne saura jamais nager.
Alain Mamoncou, est-ce que entre votre vie réelle, votre vie française, nouvelle, dans votre réalité de tous les jours, et votre vie littéraire qui commence, on le voit, avec une grande effervescence, et le monde aussi qui vous arrive par la littérature, est-ce que entre ces deux vies-là, il y a un cheminement qui est parallèle et harmonieux, ou est-ce que il y a, je n'oserais pas dire un gouffre, mais au moins un fossé?
Non, il n'y a pas un fossé. Je conçois toutes mes vies. Moi, je vis pour la littérature parce que j'aime la littérature. Je ne peux pas me concentrer. J'aurais pu tout abandonner pour ne faire que la littérature. C'est-à-dire que même si je n'avais rien à voir de ce que me rapporterait la littérature, je l'ai fait pendant des années, pendant 13 ans, où j'écrivais des livres qui n'étaient lus que par un lectorat très limité. Mais j'en étais satisfait. Il suffisait qu'un ou deux lecteurs me disent « j'ai aimé le livre » ou bien c'était déjà ça l'essentiel. Donc j'arrive toujours à voir, non pas au milieu de cela comme un gouffre, et de voir qu'il faut toujours dans l'existence faire ce qui vous semble comme votre passion. Parce que ceux qui ne réaliseront jamais leur passion mourront toujours avec une espèce de regret dans le cœur de n'avoir pas laissé à souffrir. Si vous voulez être botaniste et que vous êtes menuisier, vous allez mourir avec justement le regret de n'avoir pas fait la botanique.
Vos parents, d'abord votre mère et ensuite votre père, à moins de 10 ans d'intervalle, sont morts très jeunes. Donc, est-ce que justement la littérature a aussi été, pas seulement à cause de leur disparition, mais on a vu qu'il y a déjà le Congo tel que vous l'avez vécu qui disparaît, ensuite vos parents. Est-ce que d'une certaine façon, c'est pas aussi la reconstruction du sol sur lequel vous commencez à vous appuyer? La disparition du sol qui vous a été donné pour un sol que vous créez de toutes pièces.
Oui, il y a sans cesse cette espèce de reconstruction. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus important que lorsque j'écris, j'ai toujours l'impression que je m'adresse d'abord à mes parents, même si ma mère ne savait pas lire, mais j'ai toujours l'impression qu'elle va lire en premier le livre. Et j'ai cette espèce aussi de conscience et peut-être même de certitude que parfois certains livres me sont dictés par l'idée que je me fais d'elle. C'est-à-dire que c'est une croyance en fait. Un écrivain doit avoir quelque chose en qui il croit. Quand je finis un livre, je me dis peut-être que c'est fini, je n'en écrirai plus. Et puis je me dis, oh, elle passera par là, elle jettera un petit souffle et puis tac, l'idée viendrait. Et donc il y a toujours cette espèce de croyance qui fait que non seulement dans la littérature, ça me permet d'avoir l'impression que mes parents sont immortels puisqu'ils sont toujours là, que je les perpétue à travers les mots, à travers le terroir que je réveille, mais ça me rend aussi cette identité que je n'ai peut-être pas eue en restant au Congo. J'emporte avec moi à travers les pages tout un territoire avec lequel je me sens très bien.
Vous avez dit tout à l'heure que chacun de vos livres est fait à partir d'une histoire que votre mère vous a racontée. Mmh. Est-ce que c'est votre tour, en fait, d'une certaine façon, de lui raconter aussi des histoires dans un dialogue que rien ni personne maintenant ne peut empêcher, d'une
oui, certaine façon. C'est vrai que c'est maintenant mon tour. Et même, c'est le paradoxe dans la dédicace que je lui fais dans Mémoire de Porc-Épic. Je lui dis même que c'est son histoire que je raconte à quelques mensonges près. C'est-à-dire que l'enfant se rebelle pour ajouter quelque chose. J'en profite puisqu'elle ne sera pas là pour me dire mais c'était pas le porc-épic qu'il s'agissait. Je t'ai parlé de tel animal. Donc il y a une espèce de jubilation à l'intérieur. De la même manière aussi, même dans Verre cassé, quand je mets... Beaucoup me disaient que dans Verre cassé, il n'y a pas beaucoup de personnages féminins. C'est faux, puisque les personnages féminins, justement, quand ils sont à l'intérieur, ils occupent presque le livre. Si on prend l'obsession de Verre cassé, le personnage, par rapport à sa mère, la scène finale, c'est qu'il va quand même aller vers la rivière pour essayer de rejoindre sa mère,
oui,
en quelque sorte. Et c'est les pages que lui, le personnage, écrit, adressées à sa mère, pratiquement.
Il y a une reconnaissance qui se fait déjà de la part, je dirais, de la communauté africaine pour ce premier roman déjà. Mm-hmm. Pour Bleu, Blanc, Rouge, vous obtenez le Grand Prix littéraire de l'Afrique noire. Mm-hmm. C'est aussi une façon de revenir chez soi, mais cette fois, puisqu'on sait qu'il n'y a pas de retour d'exil, ça n'existe pas de toute façon. Il n'y a de retour que littéraire éventuellement. Mm-hmm. Et là, est-ce que vous le voyez comme ça?
Oui, c'est toujours bien de savoir qu'on peut, dans son terroir, vous reconnaître, dans son continent, parce que le public, parfois, c'est biblique, hein, le plus difficile à convaincre, c'est toujours de son propre territoire. C'est pour ça que Jésus n'a pas fait de miracle à Nazareth, puisqu'on se dit, ah non, on jouait aux billes avec lui, il revient en prophète, c'est pas vrai. Alors que les autres peuvent croire toujours. Donc quand vous avez une reconnaissance du pays ou du continent, c'est double, en quelque sorte, ça double votre enracinement.
Je voudrais vous poser une question qui est celle du cheminement littéraire et créatif. Comment est-ce qu'un livre génère le suivant ? Est-ce que Hélène Dorion nous disait la dernière fois que chaque livre produit sa faille, évidemment, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression quand on a fini un roman que ça y est, on a dit ce qu'on avait à dire et bien entendu, on s'aperçoit qu'il n'a que creusé une faille dans laquelle s'inscrit le prochain livre, etc. Comment ça se passe pour vous, ce cheminement-là ?
Ça se passe de la même manière. C'est-à-dire que quand je suis en train d'écrire un livre, généralement, je commence même les 20-30 premières pages du prochain alors que je suis au milieu d'un livre déjà. Parce que il me faut quelque chose de toutes les façons qui me rassure qu'au sortir de cela, je vais tomber quelque part.
Oui.
Donc, en l'occurrence... Et parfois, il arrive que le livre suivant qu'on a seulement écrit comme cela va l'emporter. On arrête celui qui est presque terminé pour poursuivre. C'est le cas, par exemple, en l'occurrence, pour Mémoire de Porc-Épic et Verre cassé. Dans la publication, le lecteur se dit, il a publié Verre cassé, puis Mémoire de Porc-Épic. Mémoire de Porc-Épic, je l'avais commencé depuis 2001 au Zimbabwe. Il était écrit de forme traditionnelle, avec les points, tout. Et j'avais arrêté aux alentours de 80-90 pages pour entamer Verre cassé, me dire j'ai une idée dans ce sens et j'allais dans Verre cassé. Ça, j'avais entamé 2 ans après, en 2003, quand on faisait la tournée en Afrique avec le Figaro. C'est là que j'avais commencé Verre cassé. Donc 2 ans après la première version de Mémoire de Porc-Épic en 2001. J'ai dû abandonner Mémoire de Porc-Épic pour écrire entre-temps Vers cassés, parce que dans la nouvelle que le Figaro m'avait commandée, m'était venue une idée d'urgence. Là-bas, c'était un fou dans la nouvelle, et ici, c'était un soulard. Et du coup, Vers cassés est terminé avant Mémoire de Porc-Épic, et Vers cassés est sorti. Tout le problème maintenant était pour moi, comment raccorder Mémoire de Porc-Épic à Vers cassés, de sorte que, quoi qu'il en soit, il n'y a que moi qui sais, et vous maintenant, que les livres sont un peu renversés. Mmh. Et dans l'esprit, d'où la dernière lettre qui est dans Mémoire de Porc-Épic, et dans l'esprit du lecteur, il a une suite normale de deux livres. Mais en réalité, l'un est plus ancien que l'autre.
Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, écrire, c'est répondre et arriver à répondre à la question comment. Et comment l'écrire plutôt que quoi écrire. Je vous posais aussi cette question pour vous demander de nous raconter comment s'est fait le cheminement de Bleu, Blanc, Rouge à African Psycho.
Ben, le cheminement, c'était parce qu'à chaque livre correspond à peu près une expérience d'écriture. Dans Bleu, Blanc, Rouge, c'était un premier roman que j'ai publié. Le style est plus classique. Je pense que je ne tente pas beaucoup de hardiesse stylistique. Je reste dans cette espèce de lecture que j'ai faite de la littérature classique, les Proust, les Zola, les autres. Et puis, dans Et Dieu seul sait comment je dors, qui est le deuxième roman chez Présence
Africaine. Oui, paru en 2001. Oui.
Voilà, paru en 2001. Et à ce moment, je déplace simplement mon territoire d'écriture. Ce n'est plus en Afrique, mais c'est aux Antilles. Parce que j'y suis allé, parce que j'y ai vécu quelques moments. Et puis, là, c'est plutôt mon obsession de vouloir mettre de la psychologie dans le roman. Parce que j'estimais que dans Bleu, Blanc, Rouge, j'ai l'impression que les personnages n'avaient pas assez de psychologie. Ils n'étaient pas creusés de l'intérieur. D'où le Et Dieu seul sait comment je dors, qui était un roman d'introspection où les personnages pensent, réfléchissent. Et après, il y a eu Les petits-fils nègres de Vercingétorix.
Oui, paru en 2002, voilà. Donc en 2002, au Serpent à plumes.
Serpent à plumes, donc changement d'éditeur.
Oui.
Et puis un roman qui traitait plutôt de la guerre civile au Congo. Donc j'étais affecté par cela. Et là, effectivement, c'est la mise en scène carrément d'un personnage féminin, de bout en bout, qui amène le roman. Et finalement, après celui-là, vient African Psycho, qui commence déjà à me donner des signaux, parce que je souhaite vraiment faire une vraie rupture stylistique avec ce que j'ai fait. Et ça commence un peu dans African Psycho, là, quand vous ouvrez les pages, quand le personnage s'énerve, pendant 10 pages, il parle sans virgule, que de virgule. Et c'est ça qui se retrouve plus tard dans Vers cassés, où tout le roman est écrit avec des virgules.
Et quel était justement, parce que c'est un roman dont on a beaucoup parlé, African Psycho, qui commence simplement par le personnage est un enfant recueilli, en fait, qui a l'air non seulement l'objet de, je dirais, de la générosité des autres, mais certainement pas quelqu'un qui porte une révolte jusqu'au jour où il s'attaque au fils de la famille. Et puis, bon, ça, c'est le tout début. Mais qu'est-ce qu'il y avait derrière tout
ce qu'il y avait derrière, c'est aussi toute la croyance congolaise, toute la mythologie, parce qu'il s'agit aussi à l'intérieur de presque d'un portrait d'un assassin qui a existé au Congo, Brazzaville et à Kinshasa, qui s'appelait Angualima. Il était censé avoir toutes sortes de pouvoirs. Il avait, semble-t-il, 2 visages, 4 oreilles, 2 nez, 4 jambes. Et il pouvait regarder derrière. Et quand il marchait, au lieu que ses empreintes aillent de l'avant, mais vous avez l'impression que ses pieds reculaient. Donc, il y avait toute cette espèce de mythologie qui baignait notre enfance. Et cela est remonté après en moi. Puisqu'après avoir écrit « Les petits-fils nègres », installé dans la guerre civile au Congo, tout de suite, l'histoire d'Angualima, c'est la chronique sociale, ce qui fait que derrière, c'était plutôt dire quelles sont parfois les obsessions qui ont fondé notre jeunesse et comment aussi l'image des autres sociétés peut influer en nous au point parfois de créer des personnages qui sont des grands assassins, comme dans les films de serial killer.
C'est ça, mais vous avez dit que quand vous étiez petit, enfin, on disait aux enfants, on leur faisait peur, comme dans les sociétés slaves, on fait peur aux enfants avec les Baba Yaga. Et on dit, si tu n'es pas sage, elle viendra te chercher.
Voilà. Oui, oui. Et nous, on nous disait, si tu dors pas à 19h, Angualima va couper ta tête. Et du coup, tout le monde courait dormir. Voilà.
Mais en même temps, c'est un personnage aussi qui est mythique, mais qui n'est pas dans la manière dont vous le racontez. Il est effrayant parce qu'on sait que c'est un assassin et particulièrement cruel, mais en même temps, c'est aussi quelqu'un qui a énormément de pouvoir et qui est presque aussi un exutoire de l'impuissance du peuple. C'est-à-dire que d'un seul coup, il est lui, il a tous les pouvoirs que le peuple n'a pas et donc subit de la part des autres.
Oui.
C'est aussi comme une sorte de vengeance, un peu.
C'est une sorte de vengeance de la marginalité contre les règles établies par la société, parce qu'il en veut à la société, parce qu'il ne veut pas que son petit espace vital soit pollué par les autres, parce qu'il a connu une enfance qui n'était pas normale. Et du coup, ben, la seule façon de pouvoir être quelqu'un dans la vie, c'est de ressembler à quelqu'un qui a souillé toutes les règles de la société, c'est-à-dire ce serial killer, cet Angualima qui a justement eu un passé que certains voyous admireraient, mais que les hommes de la loi voyaient plutôt en mauvais œil.
On va parler de ces grands romans, enfin, qu'on vous a beaucoup connu. Je dirais le grand public vous a bien sûr d'un seul coup beaucoup connu avec Vers cassé et Mémoire de Porc-Épic. Mais il se passe dans votre vie à cette époque-là déjà d'autres choses très importantes qui sont que vous avez démissionné de la société où vous viviez, où vous travailliez, pardon. Je ne sais pas si vous y viviez, en tout cas où vous travailliez en France, parce qu'on vous propose d'enseigner. Alors là, cette fois-ci, les littératures francophones à l'Université du Michigan à Ann Arbor. Et ça fait suite à une résidence d'écriture aux États-Unis. Comment ça arrive comme ça sur votre parcours de vie, les États-Unis et les universités américaines? Comment arrive-t-elle?
Parce qu'à l'époque, dans les années 2000, certains de mes livres étaient enseignés dans des départements d'études francophones. Donc, il est de coutume dans les universités américaines d'accorder aux écrivains des résidences d'une année, parfois même deux, des résidences. Pendant leur résidence, ils sont censés écrire librement ce qu'ils veulent écrire. Il n'y a pas une obligation en disant vous avez utilisé l'argent, mais il n'y a pas de roman. Non, vous pouvez écrire comme vous voulez. Vous écrivez et après, pour eux, ça fait du bien d'avoir eu un écrivain dans l'enceinte et puis de le présenter aux étudiants et des conférences. Donc, c'est dans ce cadre qu'on m'avait invité à l'Université du Michigan. Je suis arrivé en 2001. Alors, bon, je m'étais dit, j'ai parti pour une année. Donc, j'ai demandé à la Lyonnaise des Eaux, Suez, où j'ai travaillé depuis 10 ans. Je leur ai dit, écoutez, je vais aller aux États-Unis pendant un an. Je prends un congé sans solde. Bon, le capitaliste, tant qu'il ne paye pas, il se dit, ah bon, vous êtes sûr que ça va? J'ai dit, oui, ça va. Bon, ben, d'accord, on vous le donne. Donc, on m'a donné un congé sans solde d'une année là-bas. Et puis, je suis venu aux États-Unis pour faire l'année des résidences. Et à l'issue, au bout de 6 mois, on m'a proposé une classe enseignée. Je crois qu'il y avait un prof qui allait en sabbatique. On a dit, mais on a un écrivain là, il écrit de la littérature, il va enseigner la littérature, mettez-le dans la classe. Et puis bon, voilà, je suis arrivé. Et pendant une période, je n'avais jamais enseigné de ma vie. Donc du coup, bon, 2 mois avant, j'étais comme un étudiant, j'allais voir comment enseigner les autres profs. Je les regardais enseigner. J'ai dit, bah alors, mais donc il suffit que j'aie mon syllabus, que je lise les livres de théorie, Les livres, je les ai déjà lus. La littérature dont il parle, je sais de quoi il parle. C'est simplement les livres de théorie que je vais lire. Voilà, les grands livres d'un tel, de Chevrier, de Castelou, les théories générales par les autres, les Barthes et autres, ajouter des philosophies, parce qu'il faut jouer aussi que oui, j'ai lu Barthes et tout. Ça fait plaisir aux étudiants de thèse. Et j'arrive justement en classe et je fais le cours... je fais mon cours Introduction à la littérature francophone, mais de la nouvelle génération. Donc, ce qui ne s'était pas fait même là-bas. J'ai enseigné des auteurs qui n'étaient pas encore enseignés là-bas, les Sami Tchak, les Rari Manana, les Fatou Diom, personne ne les enseignait. Et après, j'ai vu que les autres universités aux alentours me pompaient mon syllabus par le net et ont fait des cours sur Introduction à la littérature nouvelle génération. Et du coup, ils m'ont dit, bon, on va vous donner... est-ce que vous voulez rester comme assistant professeur? J'ai dit, bon, ben, ça consiste en quoi? Il dit, oui, vous faites 3 ans, et après 3 ans, on analyse votre dossier, et là, vous faites encore 3 ans, et puis vous passez associate, et après associate, donc vous êtes titularisé, après associate, vous passerez full professeur. Je dis, mais c'est beaucoup quand même. J'ai dit, non, en fait, bon, j'ai dit, bon. Je ne voulais plus retourner travailler 7 jours sur 7. Là, on m'a proposé de travailler 2 jours et je suis resté justement le faire. Et au bout de la 3e année, à l'année où ils étaient en train d'examiner mon dossier en 2006, fin 2006, donc je suis allé au Salon du Livre de Paris. Et là, il y avait le chef de département des études francophones de Los Angeles qui était venu au Salon du Livre de Paris, qui nous assistait dans une grande discussion avec Dany Laferrière, Raphaël Confiant. On était avec une foule qui était en délire, comme quand Laferrière prend le micro. C'est tout de suite les crises cardiaques dans la foule. Donc,
surtout voilà. Quand Alain Mabankou est assis à côté de lui.
Voilà. Donc, je vois un jeune de mon âge arriver, blanc. Hein, il arrive, lunettes... voilà, et c'est britannique, hein, bien classe, costume sur mesure. Et voilà. Je ne vais pas aller loin, mais bon, vous venez en Californie, quoi. J'ai dit quoi? Non, mais nous, on est intéressés si vous venez faire une année en Californie. Je me suis dit, alors, donc, il faut que je retourne au Michigan, leur dire, bon, je vais aller visiting une année, et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé, et résultat des courses, comme je n'avais aucune titularisation, après le Renaudot, UCLA m'a dit, on vous donne la titularisation. Donc, j'ai eu la titularisation pour la rentrée dans le grade de full professeur.
En fait, vous avez non seulement fait un métier de femme, comme on vous disait dans votre enfance, mais en plus, maintenant, vous l'enseignez.
Maintenant, j'enseigne et ma pauvre mère doit bien rire sous cap, puisqu'elle s'est dit, mais c'est pas possible. Bon.
Est-ce que vous vous sentez plus en affinité, je dirais plus à l'aise dans la société états-unienne, vous savez ici on dit états-unienne plus que américaine, c'est continental, que dans la société française en tant que telle? Quelle est oui.
J'ai besoin de ce mélange en quelque sorte. Il y a des choses qui sont bonnes en France, il y a mauvaises aussi comme dans tout pays. On a besoin de prendre ce qui permet l'épanouissement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à reprocher à la France, notamment sur son système éducatif, la manière avec...
Mais parce qu'une histoire comme ça n'aurait jamais pu arriver en France, c'est certain.
Ben, ça n'arrive jamais en France. C'est pas demain même que ça... Tous les écrivains français, c'est ici qu'ils enseignent. Je veux dire, même leurs profs philosophes, les Derrida, ils ne leur donnaient pas la chair. Alors, c'est dire... Hein. Donc, ce n'était pas évident. C'est les États-Unis. Quand Derrida était ici, s'il faisait une conférence à Los Angeles, tout l'Est des États-Unis allait suivre. Quand il faisait à l'Est, tout le côte ouest. Mais en France, quand il arrivait, il n'avait pas de chair. Il était considéré comme ça. Mmh. Alors qu'ici, on allait glissant les doigts.
C'est-à-dire qu'en France, on a souvent une reconnaissance parce qu'elle est donnée par ailleurs. C'est aussi.
Oui, c'est donné. C'est pour ça que ça m'avait étonné, justement, dans le. Le Figaro en mars dernier, j'ai vu que Sarkozy a écrit un papier en disant oui, les Maryse Condé, les Mabankou ne devaient pas enseigner là-bas, il faut leur ouvrir des chaires en France. J'ai dit, mais attendez, vous rigolez ou quoi? Ça fait longtemps que je vis en France, il y en a qui sont là-bas qui peuvent le faire. Mais bon, c'est l'élection présidentielle, hein, si on peut toujours attirer des voix, puisqu'ils se disent, Mabankou va voter. S'il dit un mot dans son blog, il y aura toujours 100 voix de plus.
Ah non, dans votre blog, vous ne dites rien à part que vous avez dépouillé l'urne.
Non, mais dans
l'urne.
Le blog, dans
vous
le blog,
vous avez dépouillé l'urne
voilà.
En buvant du champagne et mangeant voilà. Du foie gras. Mais moi, je ne savais pas qu'on pouvait dépouiller l'urne. Moi, je me suis contentée de non, mais vous ne vous dites rien sur
non, mais dans le blog, ils étaient persuadés que oui, puisque Sarkozy l'a cité, donc c'est son ami, donc il va. Donc, on m'a fait tout un procès que vous votez Sarkozy. Vous... Je dis, mais je n'ai jamais donné des consignes de vote. Le vote est personnel.
Oui,
voilà, donc sûr. Voilà.
Ma question va être pour vos élèves. Votre relation avec vos élèves et leur intérêt pour... Parce que, si j'ai bien compris, à Los Angeles, vous enseignez les littératures africaines, plus, de, je suppose, africaines francophones.
Francophones.
Quel est leur intérêt pour... Bien sûr, ils se sont inscrits là, mais je veux dire, quelle vision est-ce qu'ils en ont ? Ce que je veux dire par là, c'est que enseigner, c'est déjà avoir une autre vision, mais c'est aussi vos élèves qui vous donnent aussi, je suppose, encore une autre vision de ces mêmes écrivains que vous leur apprenez.
Oui, bien sûr, il y a une espèce de vision. En tant que professeur, on apprend aussi des autres. Et moi, je suis très satisfait de voir l'intérêt des Américains pour les littératures francophones. Quand ils viennent dans les littératures francophones, ils sentent qu'ils vont aussi vers d'autres horizons. Ils veulent connaître, savoir qu'est-ce qui se passe en Afrique, comment se fait-il qu'ils parlent la langue française, pourquoi leurs écrivains écrivent en français. Et derrière, on voit que dans l'enseignement se pose aussi la question d'une introduction dans laquelle il faut aller pédagogiquement pour expliquer et la colonisation et autres, et la langue, ainsi de suite, les grands problèmes qui existent là-dessus. Les classes sont remplies, c'est-à-dire que normalement, une classe, c'est entre 18 et 20, mais nous, on arrive à faire 27, 30, et même à repousser, parce qu'au bout d'un moment... Je peux pas prendre trop, sinon après, pour corriger les copies, ça devient difficile et puis on ne suit pas bien les étudiants quand ils sont nombreux. Donc on est obligé de les envoyer. Écoutez, il y a le Moyen-Âge aussi qui existe, il y a eu la littérature, vous pouvez étudier le Moyen-Âge. Voilà.
Alors, voici une langue, parce que là, on est dans le domaine de la littérature. Bien sûr, vous êtes un écrivain francophone, mais voici une langue de plus. Tout à l'heure, je vous évoquais en disant que c'était une quarantaine d'années de voyages divers, sous le signe du voyage. Voici aussi le voyage à travers les langues. J'ai lu que vous proposiez de l'argent à quelqu'un qui pourrait traduire vos romans dans les différents dialectes de votre enfance. Mais est-ce que vous pourriez, vous, à l'inverse, écrire en anglais aujourd'hui ? Est-ce que vous voyez le faire ? Est-ce que vous...
Non, je n'écris pas en anglais, mais j'ai commencé la traduction de l'anglais au français. J'ai traduit un jeune américano-nigérian qui a écrit un livre intitulé « Beast of No Nations ». Il s'appelle Izondima Iwaela, qui a eu un très grand succès aux États-Unis. Donc, moi, je préfère plutôt continuer à écrire dans la langue
dans laquelle... À être le passeur, mais toujours...
Voilà, passeur, par exemple, je prends dans la langue de Shakespeare. Je peux lire, je peux parler, mais je traduis dans la langue française puisque je peux inventer dans ma traduction.
Ça veut dire que ça reste la langue, le français, la langue de votre...
De l'écriture. Je n'ai pas de raison. Parce que... Si je change vraiment, c'est pour... Je ne sais pas pour quel intérêt. Je vais tout d'un coup me dire, bon, il faut que j'écrive en anglais. Forcément, on va dire, il veut l'électorat ou il veut... Je ne sais pas. Que ce soit... La plupart de mes livres sont maintenant traduits en anglais. Donc, il suffit que je surveille la traduction, que je regarde. À la rigueur, je peux écrire des petits textes qui ne sont pas des fictions, des essais. Mais ça rentre dans le cadre de la recherche, de l'université.
Mais est-ce que le français est aussi toujours la langue de votre vision du monde ? Parce que c'est aussi une autre façon de voir le monde que de le voir à travers cette langue-là ou cette vision-là.
Non, la langue, c'est l'instrument que j'ai. Mais la vision du monde, elle me vient de mes langues natales. c'est-à-dire le bembe, le lingala, les langues que je croisais dans la rue, les lari, les langues du nord. C'est ça qui fonde ma vision du monde, puisque ma vision, elle est d'abord africaine. J'ai la cosmogonie africaine. Je crois en ce qu'il y a derrière. Je crois au double. Je crois à beaucoup de choses qui sont fondamentalement opposées aux visions occidentales. Donc, ma vision du monde vient de mes langues natales, de mon univers natal. Et cela, j'essaie de l'exprimer dans la langue qui me sert d'instrument de travail.
Et on a vu que c'était une vision africaine et fiévreuse également. Et que, en tout cas,
j'étais né avec le nom. Hein.
Vous avez transmis la fièvre depuis le début. J'attends de placer celle-là.
Ah oui, oui, et là je... c'est parti.
et c'est effectivement ça. Et c'est aussi un lien très direct pour moi avec Vers cassé et Mémoire de Porc-Épic. Vers cassé qui apparaît en 2005. Il remporte beaucoup de prix. Le prix RFO, je l'ai dit, le prix des 5 continents de la francophonie, le prix Ouest France. France également étonnant voyageur. Vers cassé, c'est le nom du personnage qui tient ce café où tout le monde passe et il entreprend de d'écrire, de raconter ce qui se passe. Voilà, il veut raconter, tenir la chronique en fait dans son village et tout y passe. Effectivement, une vie qui est celle qui raconte les gens qui viennent boire et tous les personnages hauts en couleur qui viennent là et qui boivent abondamment. Mais on s'aperçoit aussi et surtout finalement que passe là toutes vos références littéraires. Pas mise en avant avec des titres en majuscules ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment dans le cours du texte, également les noms d'écrivains, également des références avec une autre. Et c'est vrai que c'est une vision africaine, mais écrite en français, avec des références littéraires mondiales, pas uniquement du tout de la littérature uniquement française ou francophone. Et c'est surtout la rythmique qui n'est pas du tout une rythmique française et qui est là, alors là, pour le coup, extrêmement libre. Peut-être que vous avez mis 6 romans pour y arriver, mais là, c'est sûr que ça y était.
C'est l'univers en question dont on parle, de mon pays, de mes langues, puisque quand les conteurs chez moi disent la parole, ils le disent avec un débit de cette espèce de diarrhée verbale, parce que la parole, il y a une espèce de flow. Et puis c'est aussi cette fascination que j'ai pour la démesure verbale qui vient des auteurs latino-américains.
Oui,
parce que,
oui donc vous avez dit que c'était une grande influence.
Voilà, donc Marquez, l'automne du patriarche, m'a tellement secoué que c'est un livre.
Plus que 100 ans de solitude.
Voilà, oui. Plus que 100 ans de solitude, voilà. Et quand je sens que je commence trop à avoir la grosse tête, je vais lire Marquez et puis je me fais tout petit. Voilà.
Mais c'est ça, c'est l'Afrique telle que vous la voyez, mais mise à notre disposition. Et c'est ça que l'on a salué. Je dois dire que dans la littérature française, évidemment, vous avez cité tout à l'heure Césaire, on pourrait citer Senghor, bien entendu, Maryse Condé, et vous maintenant, mais Dany Laferrière autrement, mais quand même pas énormément de reconnaissance pour cette littérature venue d'Afrique. Est-ce que vous pensez que c'est nouveau
C'est tout le problème même de la littérature francophone actuellement. Nous sommes toujours à une phase où elle est considérée comme une littérature de seconde zone par rapport à la littérature franco-française. Donc de ce point de vue, en France, lorsque par exemple on couronne un écrivain francophone, il y en a même qui pensent qu'on en fait trop. Alors qu'on en couronne un tous les 30 ans ou les 40 ans, vous voyez, entre le Renaudot de Yambo Ologem et celui de Kuruma. Yambo Ologem 68, Kuruma en 2000. Beaucoup de l'eau est passée, mais déjà avec Kuruma, on disait « Oh là là, on en fait trop avec la francophonie, donc on ne voit jamais ça ». Il faut qu'on en arrive à ce que les livres des francophones soient traités à égalité. Quand vous venez en France... Quand je viens ici, je suis étonné dans les librairies. Les livres des grands éditeurs parisiens sont devant ici. Hein. Mais quand vous venez aller en France, il n'y a pas les livres des Québécois, ainsi de suite. Hein. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Ça passe toujours par France, Québec ou quoi. Laissez les éditeurs étendre leur division puisque vous occupez leur espace.
Oui, ça c'est un problème que évidemment on pourra tout à fait développer, qu'on va développer le plus brièvement qu'on pourra à travers le manifeste pour la littérature monde que vous êtes un des 40 écrivains à l'avoir signé. Je voulais qu'on arrive à Mémoire de Porc-Épic. Est-ce que pour vous, Mémoire de Porc-Épic a été couronnée par le prix Renaudot 2006 et puis aussi par le prix de la rentrée littéraire 2006 et par le prix Aliénor d'Aquitaine aussi. Vous avez dit que vous l'aviez écrit avant Vercassé, mais en même temps, vous avez dit aussi que vous l'aviez réécrit 4-5 fois, comme la plupart de vos romans, c'est-à-dire que au début, vous avez un premier jet qui est peut-être ce débit oral dont vous nous parlez, et puis qu'après, vous retravaillez dessus. Est-ce que pour vous, ça reste, je dirais, ce que vous faites? Ce que vous faites de mieux, mais selon vous, le plus abouti, c'est-à-dire celui qui recoupe pour vous, aujourd'hui, toutes vos dimensions, comme vous en avez envie?
Non, mais on ne peut jamais travailler un livre de façon avec un G. Il faut toujours avoir plusieurs G. Je ne fais jamais un seul G, il faut au maximum 5.
Oui.
Et c'est là qu'on voit que quelque chose qui avait, par exemple, 300 pages, va se réduire à 200, parce que parfois on a tendance à bavarder, on pense qu'on se laisse prendre par le flot du personnage, et à cet instant arrive une espèce de saturation qu'il faut pratiquement couper. De la même manière, on peut avoir le bonheur de voir que le récit semble marcher, mais aussi il faut reconnaître que quand il y a trop de bavardage, ça veut dire que l'écrivain intervient trop dans le texte et ne laisse pas la place au personnage pour qu'il s'installe de même. C'est pour cela que j'ai toujours privilégié plutôt le retravail où je vais couper tout ce qui relève de moi en tant que tel pour ne laisser que la parole pure, simple de mes personnages.
Est-ce que vous aviez aussi l'impression qu'il faut qu'un livre francophone soit couronné par un grand prix comme celui-là ou comme l'a été aussi Vercassé, pour que d'un seul coup l'attention soit portée sur le livre et pas vraiment seulement sur sa forme littéraire, mais simplement celle qu'on évoquait tout à l'heure et qui est. Il faut quand même dire que c'est le rapport de la francophonie et de la France avec sa francophonie est un rapport unique. Il n'existe pas du tout dans la littérature de langue anglaise, par exemple, que vous connaissez aussi par ailleurs.
Ben oui, ben bon, il faut reconnaître aussi que la France vient parfois après. Lise Bissonnette, qui était membre du jury du prix des cinq continents, l'a dit. Ils avaient découvert le Vercassé. Je peux même dire que c'est eux qui l'ont fait découvrir à la France.
Oui.
C'est par le prix des cinq continents que l'Ecclésio a lu finalement Vercassé et qu'il a commencé à regarder ce que j'écrivais avant. Je vais dire que Vercassé m'a donné l'amitié de l'Ecclésio. Bon, les Lises, je les connaissais avant, mais les autres, les Ecclésio, les Paulin-Jacques, ainsi de suite. Il faut toujours penser que c'est le bon côté peut-être des prix. Ce n'est pas forcément l'aspect qui vient économique, mais c'est l'aspect où vous allez découvrir des gens qui vont peut-être s'intéresser désormais à votre création et qui parfois se battront jusqu'au bout pour la faire connaître parce qu'ils estiment qu'ils aiment la littérature et qu'ils ont retrouvé ce qu'ils aiment dans vos livres.
Moi, je voudrais vous faire juste une remarque à propos du manifeste sur la littérature monde qui dit, bon, la première, enfin, une des phrases dit littérature monde en parlant de la littérature francophone et pas seulement française. À l'évidence, multiples, diverses sont aujourd'hui les littératures de langue française de par le monde. Et puis suit une liste de 40 écrivains francophones, mais le problème n'est pas résolu parce que tous sont des écrivains publiés en France. Or, le problème principal de la littérature francophone, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est aussi une autarcie territoriale au niveau de la publication elle-même. C'est-à-dire que c'est non seulement reconnaître la littérature francophone, mais encore faut-il qu'elle soit publiée sur le territoire lui-même. Sinon, c'est très, très exceptionnel qu'on soit publié ailleurs dans la francophonie et qu'on puisse être reconnu par la France. Donc, c'est pas exactement résolu par ce manifeste-là. Et d'autre part, il y a l'opposition d'Abou Diouf qui dit que c'est une nouvelle guerre de 100 ans que vous commencez là et que vous voulez simplement faire disparaître la notion de francophonie. Mais rapidement, comment vous réagissez à tout ça?
Non, mais je pense que voilà, Gary Klang est là. Hein, quand on a commencé ce manifeste des 44, il était avec nous à Bamako. L'esprit n'était pas de s'attaquer de manière frontale à l'Organisation internationale de la francophonie, mais c'était de dire à celle-ci, à cette organisation, que vous avez des missions politiques, c'est très bien. Contentez-vous de l'aspect politique de la francophonie et laissez respirer les créateurs. Parce que chaque fois que, par exemple, quand on fait le prix des cinq continents, qui est par essence un prix littéraire, on n'est pas obligé de le faire toujours en marge de quelque chose. Parce qu'on risque de toujours penser que tous les écrivains, les membres du jury et autres sont en quelque sorte comme les fonctionnaires ou, je ne sais pas, les relayeurs de cette institution. Et de ce fait, prenons l'exemple au Salon du Livre en 2006, consacré aux francophonies. Il y a un ami qui est un écrivain algérien qui s'appelle Boualem Sansal, qui a écrit Les Serments barbares, un livre très diffusé en France. Il voulait venir, on a souhaité qu'il vienne, mais on ne l'a pas invité. On dit, mais pourquoi vous ne l'invitez pas? Il écrit en français, il est publié aux éditions Gallimard. Les Français achètent ces livres. Pourquoi ils ne veulent pas venir? On dit parce que l'Algérie n'est pas membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc voilà un écrivain qui est francophone, qui ne peut pas participer au débat francophone, où il y a les écrivains francophones, parce que son pays traîne les pas avant de rentrer dans le clan de l'Organisation internationale de la francophonie. Or, si nous avions coupé, en quelque sorte, le lien, les politiques à côté, la littérature à côté, ça nous permettrait, si un Chinois écrit en français, « Ah, mon frère vient, on discute », si un Israélien écrit en français, on discute, on n'a pas à s'occuper qu'un écrivain soit inféodé, en quelque sorte, dans une organisation internationale, quelle qu'elle soit. Tout le problème du manifeste est là, mais Abdou Diouf a pensé qu'on lui prenait son gâteau, quoi. Voilà.
C'est ça. Néanmoins, je voudrais terminer sur, il faut quand même dire des choses positives, sur la francophonie, entre autres.
Ah oui,
d'abord,
mais
parce
on
que
la critique pas, hein, moi, c'est,
ah
je
non,
reconnais
non, mais
son action politique.
La littérature
hein.
en elle-même, c'est un considérable apport et enrichissement de la littérature française, en langue française, on va dire, au cours des 50 dernières années. Ça commençait bien sûr avec les grands noms. Et le Québec en est sans doute une illustration importante. Est-ce que dans votre sensation d'être chez vous ou de vous sentir bien ici, il n'y a pas aussi, sans doute très consciemment, mais aussi naturellement, spontanément, la sensation que tous ces conflits, finalement, sont un peu mis de côté, que c'est un pays libre de beaucoup, d'un endroit libre de beaucoup, beaucoup de ces contraintes-là.
Oui, mais parce que...
C'est en même temps un carrefour.
Mais non, mais parce qu'ici, ils ont la chance quand même d'avoir une espèce quand même d'autonomie. Il y a des grandes maisons d'édition, la presse est considérable, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays francophones. Nous avons, par exemple, au Congo-Brazzaville, les plus grands écrivains d'Afrique centrale, mais c'est le pays qui n'a pas de maison d'édition. C'est paradoxal. Est-ce qu'il faut enlever les maisons d'édition pour avoir les grands écrivains? Je ne sais pas. Donc le problème est que nous avons un pays où il n'y a pas de maison d'édition. Au Gabon, il n'y en a pas. Or, ici, à la rigueur, vous pouvez fermer la France vous dit, vous fermez. Quelqu'un, il publie ses livres ici. Il peut aussi bien faire 50 ou 100 000 exemplaires que s'il est en France. Ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs, nous sommes obligés forcément de nous agripper à ce cordon ombilical. Moi, je viens ici, c'est parce que j'estime que c'est un endroit qui ressemble à ce que je voudrais. Dany me dit toujours, je suis là-bas, oui. C'est parce que c'est pas un pays qui a colonisé un autre.
Oui.
Voilà.
Oui. Oui, et c'est le Québec est devenu en quelques décennies un pôle très important de la littérature francophone, vraiment. Et c'est une belle façon de souligner à nouveau le deuxième anniversaire de cette grande bibliothèque du Québec. Alors, je vous remercie infiniment pour tout ce parcours plein de fièvre et de passion. Et je voudrais inviter notre assistance à vous poser quelques questions si vous le souhaitez. Vous avez des micros de chaque côté de la salle pour le faire. Oui.
Excusez mon ignorance, mais votre nom n'était pas dit. En fait, vous avez dit comment il est né, mais en fait, en quoi est-ce que Mabankou, c'est le nom de votre père, votre mère? Comment se passerait ce nom d'une famille à l'autre, d'une génération à l'autre?
C'est le nom, normalement, c'est le nom de l'oncle, hein, parce que moi, je suis de l'Afrique centrale. C'est le système plutôt matriarcal. Donc le chef de famille n'est pas le papa. Votre père est le chef de famille des enfants de sa sœur, tandis que moi, je suis censé être gouverné par le grand frère de la maman ou le petit frère, mais qui est l'oncle dans ce sens. Donc le nom, normalement, viendrait justement de l'oncle. Donc l'oncle, lui, il a modifié le nom au lieu de Mabaou. Il a dit non, il faut que ça soit Mabankou. Voilà. Mais plus ce que je dois faire. Hein, madame, est-ce que vous me déniez hein, la probabilité de s'aimer quelques Mabankou sur Terre? Je rigolais, bien sûr, madame.
D'autres questions? Ou des commentaires?
Merci pour ces fleurs. Hein.
Il y a une question au fond là-bas.
Non, on va prendre le monsieur puis la madame.
Okay.
Oui, monsieur. Merci. Juste pour qu'on puisse partager tout ça.
Vous dites que vous faites la traduction de vos œuvres dans les langues africaines. Y a-t-il un qui est déjà sorti une traduction dans une des langues africaines?
Non, je ne traduis pas, mais j'exhorte à la traduction. Parce que je commence à traduire des livres de l'anglais au français. Mais je ne peux pas traduire du français dans mes langues, puisqu'il faut déjà une maison d'édition sur place. Et puis les langues que nous parlons sont en général orales. Donc il n'y a pas en tant que tel le lectorat, la préparation. Donc il faut plutôt inciter les ministres de la culture des pays africains de pouvoir mettre les langues africaines au programme, parce que c'est d'abord par le livre que les gens viennent par la littérature. Or, moi, j'ai jamais touché un livre écrit en lingala, par exemple. Voilà. Donc, je ne suis pas malheureusement traducteur, mais je parle 7 langues africaines. Ouais.
Est-ce que le lingala n'est pas écrit?
Si, c'est écrit en face. Ouais. Quand je dis en face, c'est-à-dire au Congo Kinshasa. Ouais. En face, ils ont même les romanciers, ainsi de suite, des livres. La Bible, par exemple, est traduite en lingala. Mais il manque cet enseignement au Congo-Brazzaville, où il n'y a aucun romancier en lingala, où il n'y a aucun texte en dehors de la Bible qui est en lingala. Donc, du coup, problème de dictionnaire, problème de codification des mots, ainsi de suite. Du coup, on se retrouve souvent avec un lingala qui est bourré de mots français. Ça devient pratiquement comme le créole, mais en lingala, quoi. Voilà.
Bon, vous dites, vous avez dit que le porc-épic, l'histoire du porc-épic vous a été dite par votre mère. Je crois que c'est dans la, votre langue, votre propre langue, que vous l'avez dite. Mm-hmm. Pensez-vous que vous, avec le français, vous allez pouvoir le dire à des générations de votre peuple?
Si je veux dire à mes...
aux générations futures de oui. votre peuple. Est-ce que c'est seulement en français que vous pensez que vous pouvez
non, dire? Non, je peux... Je veux dire qu'il y a la langue française qu'on parle au Congo, mais dans la rue, on parle les autres langues. Je veux dire que ce que me racontait ma mère, elle le faisait dans la langue natale. C'est ce que tout à l'heure, en répondant à la salle, je disais que même si j'écris en français, mais ma vision du monde est une vision congolaise, ancrée dans mon imaginaire. Ce que j'écris, c'est pas ce que pourrait écrire un français. Le français, il a son imaginaire qui est le sien, il a son héritage qui est le sien. Moi aussi, j'ai mon héritage, mon imaginaire, qui est formé justement par cette espèce de croyance que j'ai, qui peut paraître banale pour ceux qui sont animés par l'esprit de la raison, du cartésianisme, tandis que moi, je suis plutôt dans le sens de vouloir considérer les choses dans la perception que mes parents m'ont donnée de leur culture. Voilà. Mais ça ne me dérangerait pas si un jour vous pouvez me traduire en créole, par exemple.
Non, moi je viens de. Je suis un subsaharien.
Ah, d'accord.
Bon, alors là, mais parce que notre carence, je peux dire comme ça, mm-hmm. parce que nous ne réfléchissons pas dans nos langues. Et cela est une tare pour notre développement.
Bien sûr.
Ça, nous sommes d'accord sur ça. Mm-hmm. Parce qu'on n'a jamais vu sur cette planète un peuple qui s'est développé en utilisant la langue de l'autre, de plus du colonisateur. Il va falloir que le subsaharien commence à s'interroger de sa langue. Parce qu'on dit, bon, vous avez dit tout à l'heure, votre pays est francophone et que le gouvernement n'a pas une maison d'édition pour éditer vos livres. Bien sûr, nous avons des priorités. Et le français n'est pas une langue maternelle du Congo. Mmh. Alors, investir dans ça, c'est perdre de l'argent. Je sais que madame ne sera pas d'accord, mais il va falloir qu'on se le dise et qu'on commence dès aujourd'hui. C'est là où nous pêchons et nous ne nous développons pas.
C'est des propositions, donc ouais. Il n'y a pas de problème. Hein.
Merci, monsieur. Merci. Madame, peut-être que même Victor Hugo avait un double animal qui était un porc-épic.
Oui, peut-être, hein, tout le monde en a.
Moi, je voulais simplement vous dire merci, je ne vous connaissais pas. Vous êtes pour moi, pour l'instant, l'écrivain d'un livre, Vers cassé. Et ça a été vraiment un choc parce que à la fois, on y perçoit effectivement très bien l'oralité. J'étais dans un autre univers, dans votre univers, mais il y a combien de fois un petit clin d'œil à la littérature française dans laquelle je me retrouvais, les jeunes filles en fleurs. Ici, les citations de Vers cassé placées à des moments, c'est vraiment extraordinaire. Donc, j'étais aussi dans votre univers, qui est celui de la grande littérature française, mais dans un autre qui était pour moi tout à fait savoureux et plein de spontanéité, de richesse, de chaleur, avec un côté... que l'on perçoit toujours quand on voit, même dans des pays de misère, on se dit ils arrivent à rire et à avoir le sourire et à surmonter des choses, ce qu'on ne sait pas bien faire en Occident. On a plutôt tendance à pleurer tout de suite et à se lamenter. Et pourtant, sa détresse est grande, mais il y a du succulent.
Merci beaucoup. Hein. Merci.
Est-ce que je peux poser une question rapide? Oui, on a le temps?
Oui.
D'accord. Alors bonjour, je voulais savoir, bon, vous enseignez maintenant la littérature, les théories de la littérature, tout ça. De quelle façon est-ce que ça imprègne votre écriture maintenant, le fait d'enseigner la littérature? Avez-vous l'impression que ça a changé quelque chose au niveau de votre rapport aux mots ou à la forme?
Oui, d'un côté, l'enseignement me permet de toutes les façons de rester dans le domaine du livre, de rester dans ce que j'aime. D'abord la lecture et puis la discussion avec les jeunes. Ça imprègne dans le sens où ça permet de voir comment des gens qui ne sont pas francophones peuvent recevoir nos textes. Bon, le danger, c'est qu'il ne faut surtout pas écrire en se disant qu'il faut que j'écrive dans ce sens pour qu'on puisse m'enseigner aux États-Unis. Il faut toujours écrire un livre avec sa complexité. Tout livre, quelque complexe qu'il soit, trouve toujours le lecteur. Et on ne peut pas tomber dans la facilité, puisque j'ai vu des écrivains dire « Oui, mais si tu écris comme ça, personne ne va te traduire, on ne va pas t'enseigner aux États-Unis. » On n'écrit pas pour être enseigné, que les livres soient enseignés. On écrit d'abord parce qu'on ressent quelque chose qu'on veut partager à un plus large monde. Les autres, ils n'ont qu'à pousser l'exigence justement de la lecture jusqu'à atteindre. Donc pour l'instant, vraiment, je ne pense pas que ça affecte ma littérature, mais au contraire, ça me nourrit, puisque en enseignant, je suis arrivé à lire des livres peut-être que je ne pouvais pas lire dans ma vie. Les livres de théorie, par exemple, sur les questions littéraires, les critiques littéraires, les analyses. Je suis allé lire même des auteurs de philosophie, plus simplement parce que si je suivais quelqu'un qui est en maîtrise, chaque page, il cite tel philosophe, tu es obligé d'aller les lire. Donc je pense que c'est dans ce sens que ça modifie, ça m'ouvre les horizons. Oui.
Merci beaucoup.
Merci.
Dans votre cas, il faut d'abord que l'histoire plaise à votre mère.
Il faut que l'histoire plaise à ma mère, on a tout compris, et que dès que j'ai l'agrément, je lui dis merci maman, on y va.
Et ça fonctionne.
Voilà, et ça fonctionne.
Madame, je pense qu'on va être obligé d'arrêter après, mais...
Okay, petite question. Je voulais savoir, vous avez seulement effleuré le sujet. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire, je sais que Mémoire de Porc-Épic et Vercassé sont comme ça, je ne sais pas pour les autres, sans seulement avec des virgules, sans points, sans... Est-ce que si vous vous êtes dit, moi je veux faire original, ou d'où est venue l'idée justement? Parce que c'est un livre qu'on doit lire d'un trait, hein? Sinon on est comme, où je suis rendu, il n'y a pas de point.
Ben, finalement, comme j'avais dit dans African Psycho, donc le livre qui a précédé Vers Cassé, il y avait déjà
des extraits.
Voilà, cette expérience que j'avais tentée, j'ai bien expérience entre guillemets, quand le personnage s'énervait, il parlait sur 5-10 pages rien qu'avec des virgules. Et finalement, au fur et à mesure que j'écrivais ce livre, puisque parallèlement, j'avais entamé Mémoire de Porc-Épic, abandonné, puis recommencé Vers Cassé. Parallèlement, je sentais que la voix de ce soulard qui était Vers Cassé ne pouvait qu'être une voix libérée de toute contrainte phraséologique, comme on dit, des sujets, verbes, compléments, points. Donc moi, je m'étais dit, puisqu'il est sous quand il boit, est-ce que finalement il va chercher à mettre des points quelque part? Par exemple, là nous sommes en train de parler, quand je vous parle, vous ne voyez pas que je suis en train de mettre des ponctuations. Là j'ai mis un point. Voilà. Donc c'est au fur et à mesure. Quand on parle, on ne se rend pas compte, nous parlons, on écoute, on ne s'imagine pas le nombre de ponctuations qui se passent dans nos échanges. Mais pourtant nous nous comprenons. Et c'est dans ce sens que je me suis dit, si on se comprend verbalement sans passer par plusieurs ponctuations, rien que l'intonation, eh ben, les virgules seront les intonations de mon livre. Et pour vous faire respirer, je laisserai des espaces. Donc, c'est ce que j'ai fait dans Vers Cassé, Mémoire de Porc-Épic, pour un peu consolider, en quelque sorte, cette recherche formelle de l'écriture.
Ce sont des contes oraux aussi.
C'est oral. Il y a une capacité de charge orale. Et dans l'oralité, j'aime bien le côté exagéré, le côté sans cesse recommencé.
Alain Mabankou, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup d'être venu à Montréal. Vous revenez quand vous voulez, avec un nouveau roman de préférence, ou tout seul.
Merci.
Avec les livres qui sont déjà là, et j'invite tout le monde, justement, puisqu'on est à la bibliothèque, à aller prendre vos livres, les acheter ou les emprunter, et les lire et les relire. Merci beaucoup.
Merci. Hein, donc, juste l'occasion de remercier la bibliothèque et de souhaiter bon anniversaire, parce que c'est bien que ces bibliothèques soient là et permettent aussi de pouvoir...
Comment on dit bon anniversaire en lingala?
Oh là là! Ça, c'est compliqué, ça. Nous, on n'a pas d'anniversaire, nous. Hein. Ah non, nous, on n'a pas d'anniversaire. L'anniversaire, c'est quelque chose que l'Occident a ramené dans notre société.
Ah oui.
On ne célèbre pas chaque année, sinon on n'en finirait pas. Déjà que toute l'année, on fait des fêtes, si on met encore l'anniversaire. Voilà. C'est dit, du coup, chaque fois qu'on a du mal à poser bon anniversaire ou quoi là, ça reste pratiquement en français. On n'a pas bon anniversaire. Mais sinon, si on voulait traduire, on va dire Mvula Malamu ou quelque chose comme ça. Mvula Seane Malamu, Mvula Yasika Malamu ou quoi là. Mais ça ne tient pas. C'est pas, ça n'a pas la forme contractée, quoi.
Merci beaucoup.
Merci donc et bon anniversaire.